Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir ce soir pour l'émission Ambient Memory, l'interview. J'ai eu l'immense privilège de rencontrer Dominique Petitgand au parc des Buttes Chaumont à Paris pour parler de ses différents projets sonores. Je vous laisse découvrir Dominique Petitgand qui définit ses œuvres comme des récits de paysages mentaux.
Ambient Memory sur Radio Graphite. Ambient Memory, l'interview.
Je suis avec Dominique Petitgand, artiste sonore, pour parler de ses projets, de ses œuvres, ses installations sonores. Bonjour Dominique, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Ambient Memory.
Bonjour, avec plaisir.
Comment définis-tu ton travail ?
Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de donner une définition. Je suis content déjà que tu me poses pas la question de comment je me définis moi-même, parce que ça j'ai un peu du mal. Mais définir mon travail, c'est peut-être un peu plus facile. Alors je réalise des œuvres sonores, et sonores aussi bien vocales que musicales. Je dis souvent que les pièces sonores que je fais sont composées de voix, de bruit, d'atmosphère musicale et de silence. Et puis après, je peux compléter en disant que la façon dont je les fais entendre donne des formes variées. Je peux les faire écouter sous la forme de disques, d'éditions, de séances d'écoute en public, et puis des installations qui prennent place davantage dans des lieux d'exposition.
Et donc oui, tu as produit pas mal d'albums CD dans les années 90. Je voulais savoir un petit peu comment tu travailles, comment tu choisis en fait les personnes que tu enregistres. Je sais aussi que tu as fait un album avec des membres de ta famille. Pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, comment tu sélectionnes justement ces personnes.
Alors c'est vrai que tout ce que je fais prend son origine dans les enregistrements que j'ai réalisés il y a quelques années avec des gens de mon entourage. Mais ça, c'est quelque chose que je ne précise pas vraiment, parce que le but pour moi, toujours dans le montage, un petit peu à l'enregistrement, mais surtout dans le montage et encore après dans la diffusion, c'est de faire en sorte que ce point de départ soit... que je puisse m'en éloigner le plus possible. Voilà. C'est que, quand bien même j'ai un... tout ce que je fais s'origine dans une prise de son réel, c'est du réel que j'enregistre en fait, j'enregistre des gens qui existent, des conversations qu'on a ensemble, on dialogue ensemble et j'en capte quelque chose. Mais après le travail d'écriture ou de composition ou de montage, il s'agit pour moi avant tout de travailler sur l'idée de la soustraction, d'enlever plein de choses, enlever tout ce que je peux enlever des enregistrements pour ne garder à l'arrivée que quelques fragments. Avec le souci d'aller vers une forme d'abstraction, d'aller une forme de récit qui puisse être universel ou intemporel, que l'identité des gens ne soit pas vraiment révélée par ce qu'ils disent, mais que ce qu'ils disent soit quelque chose qui puisse faire déclencher des pensées, des émotions et de plein de choses. Chez la personne qui écoute, donc de transmettre quelque chose, ça c'est un peu, voilà, donc là je parle davantage du travail de montage et de composition. Le point de départ, oui, le contexte d'enregistrer des gens dans mon entourage, c'était parce que je n'ai pas une démarche littéraire, je ne travaille pas avec un texte au préalable, c'est-à-dire que alors que mes pièces sont verbales, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des récits. Mais les récits ne sont pas écrits à l'avance et je ne vais pas demander à des gens de le dire ou de l'interpréter. Je vais plutôt essayer de puiser dans ce que me racontent les personnes que j'enregistre des bribes de choses, des éléments de départ, des éléments déclencheurs d'une fiction possible et d'une fiction que je vais après donc retravailler au montage pour l'amener le plus loin possible, pour lui donner le plus de sens d'interprétation possible. Pour que, donc voilà, décoller du réel, partir du document, s'éloigner en tournant le dos au réel pour aller vers une forme de fiction. Et puis, quand même, toujours avec l'idée de laisser les choses en suspens, de ne pas trancher, de ne pas aboutir à quelque chose qui serait clos, mais au contraire le plus ouvert possible. Voilà.
Il faut que ça reste spontané. Enfin, en tout cas pour les personnes qui parlent, enfin que tu enregistres. Donc c'est du coup il n'y a pas de démarche spécifique en disant on va parler de ça, donc je vais plutôt orienter ma pièce sonore de telle manière.
Oui, c'est ça, toujours spontané, mais pour moi c'est important que ce soit spontané au départ et aussi à l'arrivée. Il faut aussi que quand on écoute, les personnes qui écoutent, que ça puisse être aussi comment déclencher la pensée, l'émotion, les sentiments ou les souvenirs ou notre pensée en fait quand on écoute, que l'écoute soit vraiment un travail actif, un travail de plaisir aussi, mais aussi un travail où l'œuvre existe même, commence à exister vraiment, elle prend son sens à ce moment-là. Et puis le sens qu'elle prend doit être le plus riche possible, le plus ouvert possible, le plus pluriel possible pour que... Voilà. Ce qui fait que les gens qui écoutent mon travail, certaines personnes ont une écoute plus musicale, par exemple, d'autres au contraire plus liées au récit, d'autres plus à la forme. Peu importe, toutes les écoutes sont les bienvenues. Et puis, s'agissant de narration, parce qu'en fait, je raconte des histoires, en fait, les pièces que je fais sont des narrations. Ça raconte quelque chose, mais faire en sorte que les histoires en question soient plutôt des énigmes que le... Souvent, par exemple, quelque chose commence, mais ça reste en suspens et la suite est à imaginer. Ou alors, on raconte quelque chose, mais on n'a pas ce qui précède. Il manque quelque chose, voilà, toujours. Je travaille beaucoup avec l'idée du manque, de l'espace un peu vide entre des choses. Et tout le travail de composition, c'est de faire en sorte de déclencher l'écoute, déclencher un récit, mais après de laisser le plus ouvert possible tous les espaces vacants où notre pensée peut se faufiler.
Tu as aussi rédigé des ouvrages tels que « Installation sonore » et « Sommeil léger ». Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu ?
Oui, donc j'ai fait des disques, mais j'ai fait aussi des livres, j'expose, ça c'est quelque chose qui se fait assez souvent dans le champ de l'art, c'est de faire ce qu'on appelle des catalogues, ou en tout cas des éditions liées aux expos ou aux événements. Et donc, j'ai été amené à faire plusieurs ouvrages sur papier où se posait la question de comment parler du son, comment parler d'une œuvre sonore quand elle est absente. Et donc, les disques permettent de reproduire l'œuvre, mais pendant un livre permet de jouer sur justement tout ce qu'on peut raconter d'une œuvre qui n'est pas là. Donc, on peut parler de le souvenir de son écoute ou des conditions de son écoute, où on peut documenter l'œuvre des différentes façons. Donc chaque fois que j'ai pu faire une édition, ça a été pour moi une sorte d'enjeu, puis de jeu aussi, de se dire ça. Comment parler du son quand il n'est pas là ? Et donc Sommeil léger, par exemple, est un recueil d'éléments, de textes, de quelques images, mais des images plutôt avec des fragments de textes mis en images plutôt. Il n'y a pas de visuel autre que les mots. Et c'est un assemblage comme une forme de montage où j'assemble plusieurs extraits de différentes pièces anciennes ou récentes selon un nouveau récit. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, en fait. Quand je fais une diffusion en public ou quand je fais un disque ou une publication, je recompose un tout ou un ensemble avec des parties différentes qui ont déjà été faites avant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais par exemple un disque est l'addition de plusieurs morceaux, mais chaque morceau peut exister à différentes époques, et après quand je vais faire le disque, je vais refaire comme une sorte de grande composition faite de différents fragments. Et parce que ça c'est aussi quelque chose que je peux dire, c'est que j'ai un travail qui est finalement assez cohérent dans le sens où tout ce que je fais participe d'un seul ensemble. C'est que les pièces qu'on trouve sur différents disques ou en installation ou dans les diffusions sont plus ou moins les mêmes pièces recomposées, recombinées, retravaillées, soit pour s'adapter au nouveau support, soit pour s'adapter aux nouvelles conditions d'écoute. Et puis aussi je retravaille les mêmes éléments d'enregistrement, les mêmes phrases, les mêmes voix, les mêmes éléments musicaux que je peux retraduire, recomposer, remixer éternellement pour en faire une sorte de nouveau récit. Donc, par exemple, la première question que tu m'as posée, c'était À propos des enregistrements, oui. Il se trouve que les mêmes enregistrements me servent à des années d'intervalle pour faire des œuvres différentes. Quand j'ai envie de faire une nouvelle pièce, je ne vais pas enregistrer quelque chose, je vais plutôt aller puiser dans ce que j'ai déjà enregistré. Et l'idée de la nouvelle œuvre vient plutôt du montage que de l'enregistrement lui-même.
D'accord, et tu as une base de données assez conséquente, ce qui te permet justement de faire ça. Tu fais aussi des séances d'écoute de performance dans des salles. Mmh. Est-ce qu'il y en a en ce moment ou il y en a peut-être en prévision, je ne sais pas.
Pour l'instant, non. En ce moment, c'est plutôt des expositions dans des musées ou des galeries. Les séances d'écoute, j'en fais moins. J'en ferai toujours, mais ça dépend de qui me programme. Il se trouve que j'en ai fait dans des contextes vraiment différents. J'ai fait ça dans des lieux de musique, mais aussi des lieux de théâtre, des lieux de cinéma, de danse. Parce qu'au début, c'était pas évident pour moi de définir ce que je faisais exactement, ou plutôt dans quelle place on allait pouvoir ranger ce que je faisais. Ce qui fait que depuis le début et encore aujourd'hui, je me trimballe entre plein de disciplines artistiques différentes, d'univers différents et de lieux différents. En restant toujours le même, en proposant ce que je fais, mais comme ce que je fais intéresse des gens très différents, bah, je peux être convoqué effectivement dans un théâtre ou ailleurs. Et les séances d'écoute prennent place n'importe où. À partir du moment où les gens peuvent s'asseoir ou prendre place quelque part, et moi je diffuse des sons.
Oui, tu fais aussi des expositions donc dans des galeries. Tu parlais d'expositions notamment au théâtre de Gennevilliers avec des pièces sonores. Il y a aussi des installations permanentes au Centre international d'art et du paysage aussi que tu as fait. Comment tout ça s'est mis en place? Est-ce que tu as carte blanche ou on te donne un cahier des charges en disant voilà, il faut faire telle ou telle chose? Comment ça se passe?
Alors j'ai la chance, je n'ai que des cartes blanches. Et quand je n'ai pas carte blanche, je ne réponds pas à la demande. Sauf exception, mais principalement, c'est ça. J'ai la chance de pouvoir répondre comme je le souhaite à ce qu'on me propose. Mais une fois que j'ai dit ça, je dois préciser que chaque fois que je fais quelque chose, donc surtout quand c'est une installation ou une exposition, je dois prendre en compte des contraintes et des possibilités qu'on me donne. Donc je dois adapter ce que je propose, ce que je fais, au lieu, au contexte, aux conditions matérielles, financières, mais aussi au paysage, à l'architecture, à la façon dont l'exposition va prendre place dans un contexte particulier, tout ça. Donc j'ai carte blanche pour répondre à des contraintes. Voilà, c'est un peu un paradoxe, mais c'est comme ça. Et par exemple, une des contraintes principales pour moi, c'est vraiment l'espace, le lieu. Si l'exposition prend place dans une salle, par exemple, si cette salle est... Si je dois cohabiter ou si l'œuvre doit cohabiter avec d'autres œuvres dans cette salle, ce n'est pas du tout la même chose que si je peux prendre l'espace en son entier. C'est différent aussi si plusieurs salles, je peux occuper plusieurs salles et donc je peux découper une œuvre en différents espaces qui vont se succéder. Par exemple, une grande salle avec un couloir, une petite salle attenante. Ça me donne par exemple trois parties d'espace dans lesquelles je vais pouvoir faire une œuvre qui se décompose en trois parties, trois couches sonores. Et dans ces cas-là, l'enjeu d'une exposition, c'est de créer les situations d'écoute de façon à ce qu'une œuvre sonore puisse trouver son lieu d'existence, sa résonance, que les personnes qui écoutent puissent se déambuler d'une zone à l'autre et composer l'œuvre par eux-mêmes, par leur déplacement, par le mixage qu'elles se font dans leur tête, en cheminant d'un son à l'autre, d'une couche à l'autre. Et donc, dans ce cas-là, je travaille sur aussi les sons qu'on entend à distance, les sons qui se mélangent. Un proche peut dialoguer avec un lointain, un premier plan avec un arrière-plan, un centre avec des périphéries, tout ça, voilà. Donc là, j'ai une façon de parler du son, dans ces cas-là, presque proche de l'idée d'un paysage, finalement. L'œuvre devient un paysage à parcourir, à écouter, avec aussi... créer les conditions d'une écoute qui soit ouverte, plurielle, que chacun puisse cheminer dans cette écoute selon son envie, qu'on puisse choisir de commencer par le début, la fin, le milieu, le centre ou la périphérie. Et donc j'ai été amené au fil des années de répondre à ce genre de sollicitations, créer des œuvres pour les espaces, c'était aussi réfléchir à comment les œuvres elles-mêmes se transformaient. C'est-à-dire qu'au début, en commençant à faire des œuvres pour des disques ou pour des séances d'écoute en public, où il s'agissait, comme une forme de concert, de commencer à une heure précise et de finir à une certaine heure, il y avait ce que j'appelle une écoute un peu linéaire, quoi, avec un début, une fin. Alors que l'installation, c'est une écoute qui n'a pas de début et de fin. Les gens rentrent et sortent de l'espace quand ils veulent. Ils peuvent rester 3 heures ou 5 minutes dans l'œuvre. Donc du coup l'œuvre doit s'adapter à ça aussi, ce qui fait que j'ai été amené à transformer mes montages de façon à les rendre un peu infinis, à les mettre en boucle, faire en sorte qu'il n'y ait ni début ni fin, ou que le fragment qui se succède dans le temps, dans la composition, puisse être, pardon, qu'on puisse prendre vraiment une écoute en plein milieu de quelque chose, que ce soit aussi intéressant que d'arriver plus tard. Il y a aussi l'idée de l'écoute mobile, par exemple, à la différence d'une écoute assise, où on choisit une place une fois pour toutes et le son vient à nous, en gros. Pour une installation, c'est plutôt nous qui allons vers le son. Voilà. Plutôt, parce qu'il y a un peu les deux aussi, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt donc, nos déplacements vont aller chercher les sons, construire une écoute, couche par couche, parcourir un paysage, comme on parcourt une œuvre.
Et donc c'est à peu près le même principe, parce que tu as aussi des expos personnelles, donc c'est toi qui démarches certaines salles ou certains lieux que tu affectionnes. Ça se passe comment, quelle est la démarche justement de tes expos personnelles?
La difficulté, en fait, c'est que pratiquement tout le temps, ce n'est pas moi qui démarche, en fait, c'est qu'on me sollicite pour ça. Et la difficulté, c'est que dans l'art, ça se passe comme ça, c'est qu'en fait, ça ne marche pas quand on contacte les gens ou les lieux pour dire « j'aimerais bien faire quelque chose avec vous, un musée, tout ça ». En fait, il faut attendre finalement qu'on te sollicite. À la différence d'autres disciplines artistiques où c'est peut-être plus facile, par exemple, quand on écrit un livre, d'envoyer un manuscrit, puis on a une réponse favorable ou non. Mais dans l'art, il faut un peu attendre. Au fil des années, j'ai été amené à faire des choses parce que le souvenir de ce que j'ai déjà fait amène d'autres personnes à avoir envie de me faire venir, quoi, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai été amené à faire des choses dans un tas de sortes de lieux, des lieux qui sont des musées, qui sont des anciennes maisons, des bâtisses industrielles. J'ai fait un truc dans une église, une chapelle, mais aussi dans une ancienne usine, une ancienne blanchisserie, un appartement, à l'extérieur, dans une forêt, dans un parc. Toutes des situations différentes, intéressantes, avec leurs propres difficultés et possibilités.
Et du coup, pour en revenir aux pièces sonores, est-ce que en projet, tu as de sortir justement de nouveaux disques, peut-être je ne sais pas, à toi de me dire.
Oui, alors plus ou moins grande échelle. Là, par exemple, pour l'exposition que je fais dans la galerie JB Agency, là, je fais l'édition d'un vinyle, mais avec un tirage très limité. Et puis la façon dont on écoute le disque fait partie de l'œuvre elle-même. Mais sinon, principalement avec le label Ici D'ailleurs, avec qui j'ai fait tous les premiers disques, on va sortir un coffret avec la réédition de tous les disques que j'ai fait précédemment, plus un disque avec des inédits. Donc voilà, ça relance un peu la machine, parce que c'est vrai que j'avais pas fait de disque depuis 2011, parce que c'est...
Le point de côté, je crois que c'est, moi je me trompe d'album.
2011, c'est Mon Possible, ça s'appelait.
D'accord.
Voilà. Bon. Point de côté, c'est plutôt 2001.
2001, je me suis trompé dans les dates. Et sinon, pour suivre ton actualité, on peut te retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux.
Un peu, mais qu'est-ce que tu appelles les réseaux sociaux?
Facebook, Instagram, tu n'es peut-être pas très à l'affût de ces éléments.
Je sais pas. Facebook, j'y suis depuis peu, et puis ça, je m'en sers comme une sorte de newsletter, où j'annonce ce que je fais tel jour, telle heure, voilà. Mais Instagram, non, parce que j'ai pas un travail visuel et Instagram, ça marche beaucoup là-dessus. Donc voilà, mais oui, en fait, finalement, ces réseaux ont remplacé ce qu'on faisait avant en envoyant des cartons d'invitation ou en mettant des affiches. Je m'en sers comme ça. Je tiens pas une chronique au quotidien de mon travail ou de ma vie sur les réseaux sociaux. C'est vraiment plutôt des effets d'annonce.
Tu as un site internet, dominiquepetitgrand.art. Où on retrouve justement tous tes travaux, toutes les dates de tes expos notamment, je crois.
Oui, alors là, c'est vraiment plutôt un travail que je fais moi. Je trouve ça plus intéressant, c'est vraiment un fond, c'est presque comme une sorte d'archive en direct que je peux faire. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que un site, c'est comme un livre ou une édition, c'est qu'on peut gérer soi-même la forme et le contenu. Donc c'est aussi travailler ce que j'aime faire, c'est comment on parle d'un travail qui n'est pas là, voilà, comment on documente un travail par l'écrit, par des extraits, quelques images, des croquis, des documents de toutes sortes. Ça c'est pour chaque œuvre, pour chaque installation, trouver la forme de ça. Et puis aussi au quotidien je peux ajouter des éléments et c'est une sorte de base de données de réflexion que j'ai, que je peux mettre par écrit, des entretiens, et puis donner des nouvelles, oui, ça c'est vraiment presque un projet en soi, en fait, finalement. Documenter ce qu'on fait, c'est aussi intéressant. Enfin, s'agissant du son, parce que le son, il y a toujours cette difficulté de quelque chose d'immatériel, un peu insaisissable, comment on en parle, quels sont les mots, quels mots on peut mettre dessus. Donc il y a toujours un peu tourné autour d'un vide ou de quelque chose d'un peu insaisissable. Et puis ça nous pousse à faire des efforts, à travailler la langue, à travailler aussi les éléments documentaires pour en parler. Et voilà, j'aime faire ça. Et c'est aussi un vecteur d'information pour les autres.
Eh bien, écoute, je te remercie de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Toutes les infos, bien sûr, seront sur le site d'Ambient Memory. Et donc, on peut retrouver aussi les différents éléments, comme je disais, sur dominiquepetitgant.art.
Ambient Memory sur Radio Graphite.
L'émission touche à sa fin. Dès demain, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur les plateformes habituelles. Vous souhaitez avoir plus d'informations sur Dominique Petitgant ? Connectez-vous sur le site dominiquepetitgant.art. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau voyage d'Ambient Memory. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !
Ambient Memory.